France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra dès le début de ce journal en Israël où le cabinet de sécurité est actuellement réuni pour approuver l'accord de cessez-le-feu à Gaza, lequel doit toujours entrer en vigueur dimanche, mais reste extrêmement fragile. À 3 jours de l'investiture de Donald Trump et avec notre invité aujourd'hui, la juriste et américaniste Anne Desine, on parlera du risque de démantèlement des droits et des libertés aux États-Unis. À suivre également la négociation promise par François Bayrou pour lancer une difficile concertation sur la très décriée réforme des retraites. Les partenaires sociaux sont arrivés ce matin au ministère du Travail. On se rendra par ailleurs au tribunal judiciaire de Paris avant une possible mise en examen de la journaliste Ariane Lavrieux. Enfin, on reviendra à notre tour sur la disparition hier de David Lynch et notamment sur la place fondamentale qu'occupait la musique dans toute son œuvre cinématographique. Se rapproche-t-on d'un cessez-le-feu à Gaza? L'annonce d'un accord mercredi continue de susciter un soulagement mêlé d'angoisse, d'une part parce que l'armée israélienne n'a pas pour autant cessé ses frappes aériennes sur le territoire palestinien qui ont fait plus d'une centaine de morts, ensuite parce qu'Israël doit encore donner son feu vert et enfin parce que le véritable défi, le cas échéant, sera bien entendu de maintenir cette trêve en vie. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant à Jérusalem, le cabinet de sécurité israélien est donc réuni en ce moment même pour la finalisation des derniers détails, sauf que cela n'est là en réalité que le tout début d'un long processus, Thibault, qui se poursuivra au plus tôt jusqu'à dimanche.
Oui, c'est tout à fait ça. La réunion est en cours, ce cabinet de sécurité. Il faut bien comprendre que c'est l'étape cruciale, l'étape essentielle pour valider cet accord du côté israélien. Alors une quinzaine de ministres sont en train en ce moment même de voter pour ou contre et à la majorité simple, ils devraient, sauf énorme surprise, décider de valider l'accord. Cette réunion doit être suivie d'une autre réunion, cette fois du cabinet élargi avec donc tous les ministres, simple formalité. Et puis l'État hébreu va publier une liste de détenus palestiniens libérables. Ils seront entre 1000 et 1600. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés après le 7 octobre, sans lien avéré avec l'attaque terroriste du Hamas. Des citoyens ou des associations, des groupes de pression auront alors 24 heures pour déposer des recours devant la Cour suprême. Et c'est seulement à l'issue de tout ce processus que l'accord pourra être appliqué. Le gouvernement israélien espère procéder aux premiers échanges dimanche, comme le prévoit d'ailleurs l'accord. Il y a encore quelques inconnus dans le calendrier, mais en Israël, l'armée, les hôpitaux, tous les services concernés se préparent à accueillir les 3 premiers otages. 3 femmes, elles auront passé plus de 470 jours dans les mains du Hamas ou d'autres organisations islamistes.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Alors sous réserve donc de l'approbation de cet accord par le cabinet de sécurité avant d'être validé par un vote en Conseil des ministres et en espérant que la Cour suprême ne retarde pas son application, la libération des otages israéliens enlevés par le Hamas en échange de la libération de détenus palestiniens emprisonnés par Israël devrait commencer dimanche. La liste des otages libérables a d'ailleurs été publiée ce matin même. Farida Noir, bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez actuellement à Tel Aviv où après la publication donc de cette liste, des familles ont tenu une conférence de presse place des otages.
Oui, 4 familles d'otages qui ont pris la parole ici, et notamment Daniel, le petit-fils d'Oed Livjit, 84 ans, dont le nom figure sur la liste des 33 otages publiés ce matin. Il se dit stressé et soulagé, mais reste prudent, car dit-il, je ne sais rien de l'état de santé de mon grand-père, blessé quand il a été kidnappé et malade. Mais c'est la première fois que nous avons de l'espoir, ajoute-t-il, nous n'avions aucune nouvelle. Ce petit-fils qui ne sait pas s'il le reverra mort ou vivant, car rien n'est précisé sur cette liste. Les autres familles, elles aussi, se sont exprimées au micro, et notamment Michel Ilouz, dont le fils est mort, son corps se trouve à Gaza et lui n'espère plus qu'une seule chose, récupérer le corps de son enfant pour l'enterrer dignement.
Et qui sont Farida, donc les autres otages qui sont sur cette liste?
Alors il y a les 2 Français, Ouad Yahalomi et Ofer Calderon. On ne sait pas si les 2 hommes enlevés le 7 octobre dans le kibboutz de Niro sont blessés, morts ou vivants. Il y a aussi sur cette liste les 2 enfants Bibas, dont le petit Kfir qui aura 2 ans samedi. Et avec leurs parents, là aussi, on ne sait pas s'ils sont vivants. Leur père Yarden avait annoncé il y a 9 mois dans une vidéo tournée par le Hamas sous la contrainte que ses enfants et son épouse n'avaient pas survécu. Et puis 3e enseignement de cette liste, les 5 observatrices des jeunes soldats qui ont été enlevés à la lisière de Gaza le 7 octobre doivent aussi être libérés.
Merci Farid Anouar, en direct de Tel Aviv. Alors dans les termes de l'accord négocié, on trouve non seulement la libération de 33 otages israéliens en échange d'un millier de prisonniers palestiniens, mais également une entrée conséquente de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Environ un demi-millier de camions pourraient accéder à l'enclave chaque jour. Et dès cet instant, l'enjeu sera aussi de lutter contre l'insécurité qui règne dans le territoire. Comme nous l'explique Antoine Renard, il est le directeur du programme alimentaire mondial pour la Palestine.
Nous avons assez d'assistance qui sont dans les corridors. Maintenant, ce qui est important, c'est que cette assistance rentre et surtout que dans la zone de Gaza, et c'est un des points sur lesquels on insiste auprès des différents belligérants, c'est que nous n'ayons plus d'attaque au moment où nous sommes dans Gaza. Et ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a, c'est qu'au cours du mois de octobre, novembre, décembre, nous avons perdu énormément de notre assistance parce qu'il y avait trop d'attaques par des groupes criminels. Que ça soit avant le cessez-le-feu ou maintenant avec l'arrivée du cessez-le-feu, il est essentiel que toutes les questions de sécurité nous permettent de pouvoir bouger de manière libre dans la bande de Gaza. Sinon, vous aurez effectivement plus de flux qui peuvent rentrer parce que potentiellement, les différents couloirs vont être ouverts de manière plus longue, mais nous aurons toujours les risques de sécurité à l'intérieur.
Antoine Renard, donc directeur du programme alimentaire mondial, joint au téléphone par Étienne Monin. Et je précise encore que 90% de la population de Gaza est aujourd'hui en insécurité alimentaire.
Selon un dernier bilan, au moins 27 personnes sont décédées dans les flammes qui ont furieusement embrasé la ville de Los Angeles.
Et les dizaines de milliers d'habitants évacués vont devoir patienter au moins une semaine de plus avant de pouvoir rentrer chez eux en espérant ne pas devoir rejoindre un amas de cendres. Les autorités craignent en particulier des glissements de terrain, mais aussi le risque d'exposition à des substances toxique. Dans le même temps, et dans les régions les plus septentrionales, cette fois-ci des États-Unis, les Américains se préparent à affronter des températures glaciales potentiellement dangereuses dans les jours à venir, un froid lié au vortex polaire arctique, et qui fera d'ailleurs l'investiture de Donald Trump lundi à Washington la cérémonie la plus froide jamais organisée depuis 4 décennies. Alors, le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche avec une Cour suprême de plus en plus politisée, mais aussi une Chambre des représentants et un Sénat à qui, à sa cause, interroge d'ores et déjà sur la nouvelle puissance de Donald Trump, lequel aura ainsi les coudées franches pour mettre en œuvre son programme controversé mêlé d'un conservatisme sans complexe sur nombre de thématiques, le changement climatique, l'immigration, mais aussi l'avortement. L'IVG était sans conteste un sujet d'opposition extrêmement fort entre les deux adversaires lors de la présidentielle. Durant la campagne, Donald Trump avait d'ailleurs multiplié les déclarations confuses pour ne pas perdre une partie de son électorat, quitte même d'ailleurs à maquiller sa femme en défenseuse de l'IVG pour semer le trouble. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Anne Desine, juriste américaniste, professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre et auteur d'un ouvrage intitulé « Les juges contre l'Amérique » paru en octobre de l'année dernière. Bonjour madame.
Bonjour.
En 2001, lors de son tout premier jour de travail à la Maison-Blanche, George W. Bush avait choisi une ordonnance pour limiter l'exercice du droit à l'avortement. Pourrait-on imaginer un scénario identique la semaine prochaine lorsque Donald Trump débutera donc le second mandat à la Maison-Blanche ?
Alors, il faut distinguer le droit à l'avortement au plan interne et au plan international, si j'ose dire. Au plan interne, on sait que ce droit avait été découvert par les juridictions. C'est la grande différence avec la France, où c'est une loi qui a mis en œuvre et garanti ce droit à l'avortement. Et puis, il y a eu le revirement de jurisprudence en 2022. Donc, actuellement, au plan interne, les États décident. Et donc, les États du sud des États-Unis, de la ceinture de la Bible, ont interdit l'avortement. Au plan international, Trump va ressusciter la politique qu'il avait lui-même reprise de George W. Bush et de Reagan en 1984, qui consiste à interdire aux ONG étrangères, sauf si elles certifient qu'elles ne parlent pas d'avortement, qu'elles ne pratiquent pas des avortements, leur interdire de recevoir des fonds fédéraux américains. Donc on a bien les deux dimensions et Trump va sans doute agir au plan interne et au plan international. Au plan interne, c'est vrai que la droite religieuse lui demande d'obtenir du Congrès le vote d'une loi fédérale, donc qui interdise l'avortement aussi en Californie, à New York et dans les États traditionnellement tenus par les démocrates.
Est-ce que l'on connaît la proportion aujourd'hui aux États-Unis entre d'un côté les pro-choice, favorables à la légalisation de l'avortement, et puis les pro-life opposés à l'avortement ?
Il y a une large majorité en faveur d'un droit à l'avortement, y compris chez les républicains.
Ça veut dire que l'abrogation en 2022 par la Cour suprême de l'arrêt garantissant le droit à l'avortement allait à l'encontre de ce que souhaitaient les Américains?
Complètement, et c'est la raison pour laquelle les démocrates ont fait des bons scores aux élections de mi-mandat qui ont immédiatement suivi. En revanche, n'a pas suffi à porter Kamala Harris au pouvoir parce qu'il y avait l'inflation et puis il y a eu l'instrumentalisation d'un certain nombre de thèmes par Donald Trump. Et puis Kamala Harris n'a pas été une candidate parfaite. Mais c'est un thème sur lequel il y a une large majorité aux États-Unis. Et donc je ne pense pas que Donald Trump va courir le risque d'essayer de faire adopter une loi fédérale. Et je ne suis pas sûre qu'elle pourrait être adoptée, car il faut se rappeler que les Républicains sont certes majoritaires dans les deux chambres, mais à la Chambre, ils ont 3 voix de majorité et ils sont très, très divisés. Et au Sénat, en raison de la technique d'obstruction qui s'appelle filibuster, la majorité pour faire passer un texte n'est pas de 50 sénateurs, mais de 60.
Comment s'est opérée malgré tout donc cette droitisation, mais pas seulement, cette politisation croissante aussi de la Cour suprême?
En fait, c'est un projet qui date des années 70. Les années 70, les États-Unis étaient très très libéraux dans le sens de progressistes. Le Congrès était démocrate, il y a eu plusieurs présidents démocrates, et surtout la Cour suprême, c'est la Cour suprême qu'on aime à citer en France, c'est celle qui a dit fin de la ségrégation, droit à un avocat, droit à garder le silence, etc. Et donc la droite s'est mobilisée en disant il faut que nous fassions quelque chose. Et c'est la période où ont été créés beaucoup de think tanks, donc de centres de réflexion à droite pour créer un récit contre l'État tentaculaire, un récit pour la liberté du marché, etc. Et l'une des organisations qui a été créée un peu plus tard, en 1981, la Federalist Society, qui reçoit des millions de dollars des fondations de droite et des millionnaires, comme les frères Koch, a pour mission d'identifier des juristes conservateurs brillants et ensuite de les placer dans les juridictions. Et pendant le mandat de Donald Trump, cette Federalist Society a présélectionné 250 juristes qui sont maintenant dans les juridictions fédérales, soit en première instance, soit en cour d'appel, et 3 d'entre eux siègent à la Cour suprême, ce qui a fait basculer la majorité, qui était conservatrice, mais avec parfois ce qu'on appelle des juges pivots, un juge un peu conservateur qui votait parfois avec les libéraux. Maintenant, c'est fini. Les 6 conservateurs, dont plusieurs radicaux, vont voter ensemble et il n'y aura plus cette espèce d'incertitude due au juge pivot.
Avec un risque donc de vrai démantèlement des droits et des libertés. Merci Anne Desine, juriste américaniste, donc d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation.
Midi et 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
François Bayrou a donc remporté son pari hier. La motion de censure déposée par la France Insoumise et votée par les communistes et les écologistes a échoué. Alors en réalité, l'enjeu du débat, premier acte de défiance à l'encontre du Premier ministre, n'était pas tant l'issue de ce vote, puisqu'elle n'avait dans tous les cas aucune chance d'être adoptée, que la recomposition à l'œuvre dans une assemblée fragmentée. Et en ce sens, la vraie victoire de François Bayrou est d'abord et surtout d'avoir obtenu un sauf-conduit du Parti Socialiste, qui en refusant de mêler donc ses voix à l'alliance des gauches aura acté hier le délitement du nouveau Front Populaire. Un véritable tournant, puisqu'en quelques jours, le PS aura ainsi remisé ses habits de parti d'opposition pour remettre son costume de parti de gouvernement, même si cela n'est pas exactement ainsi que les socialistes eux voient les choses. Olivier Faure assure même au contraire vouloir incarner, je cite, une gauche qui fait céder le gouvernement, manière de rappeler les concessions que le premier secrétaire a su arracher, et notamment celle de remettre en débat la réforme des retraites. Et de fait, ce matin, après quelques couacs d'agenda, François Bayrou a donc fini par lancer, comme promis, les concertations avec un premier rendez-vous de méthode en présence de 4 ministres et des partenaires sociaux, à l'exception toutefois de Solidaires et de la FSU qui n'ont pas été conviés à Matignon. Je vous propose d'écouter la secrétaire générale de la CFDT à son arrivée ce matin au conclave, Marie-Lise Léon, pour qui un accord est possible.
Le Premier ministre avait évoqué la question d'avoir différents scénarios et notamment le fait qu'il n'y ait pas d'accord. La CFDT, elle ne se met absolument pas dans ce scénario. Il faut qu'il puisse y avoir des discussions sereines, que tout le monde mette tout sur la table et puis de voir quels sont les accords possibles. C'est la moindre des choses pour les travailleurs et les travailleuses, tous ceux qui se sont mobilisés pendant des mois et qui attendent des résultats concrets. Je pense qu'ils attendent surtout que les responsables politiques et syndicaux sortent des postures et puis qu'on parle des vrais problèmes, les questions de pénibilité, les questions de l'âge, la question des 64 ans, c'est un sujet. Et pour ce qui concerne la CFDT, il y a le sujet des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont extrêmement importants et qui devront avoir des solutions.
Voilà, la patronne du syndicat réformiste CFDT, Marie-Lise Léon, au micro de Mathilde Cariou.
Secret des sources contre secret défense.
Depuis ce matin, la journaliste Ariane Lavrieux est auditionnée par une juge d'instruction, une convocation à l'issue de laquelle elle risque une mise en examen. Au cœur de cette affaire, on trouve une série d'articles publiés à partir de 2019 par le Média Disclose, des enquêtes mettant en cause la vente d'armes par l'État français à des régimes autoritaires, mais surtout une opération militaire secrète de la France en Égypte, possiblement détournée par le régime pour tuer des civils. Alors depuis ce matin, on soutient la journaliste, un rassemblement est organisé devant le tribunal judiciaire de Paris où s'est rendue Héloïse Roger et où l'importance a été rappelée derrière ce combat judiciaire donc d'entretenir aussi un combat à la fois politique et législatif pour protéger au mieux les journalistes. Reportage.
Juste avant de rentrer dans le tribunal, Ariane Lavrieux a pris la parole, entourée d'une centaine de personnes, beaucoup de journalistes et syndicats venus en soutien.
C'est que le début d'une bataille, parce que la loi qui a contribué à vous conduire ici ce matin et à vous faire déplacer par un froid polaire, cette loi de 2010 est toujours en vigueur et elle vous menace tous, vous qui êtes journaliste.
Il y a deux jours, une lettre ouverte coécrite par plusieurs médias et syndicats a été envoyée au gouvernement et parlementaires pour demander une réforme de cette loi sur la protection du secret des sources des journalistes. Une loi caduque, en particulier un article, selon Mathias Destal, rédacteur en chef de Disclose.
L'article 10 stipule qu'on peut, pour des impératifs prépondérants d'intérêt public, mettre en place des moyens d'enquête très importants. Et cet impératif est très très flou et jargonneux. Il faut pouvoir préciser de quoi on parle et évaluer exactement la proportion des moyens utilisés. Donc la loi est caduque parce que là, elle a été détournée de son propos pour traquer pendant des mois et des mois Ariane, mais surtout les gens qui l'ont informée.
En déplacement à Marseille, hier, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a évoqué une refonte de cette loi. Elle veut reprendre les recommandations formulées lors des états généraux de la presse indépendante. Insuffisant, selon Alexandre Buisine, secrétaire général du Syndicat national des journalistes.
À la fois, ils restreignent les possibilités d'atteinte au secret des sources, mais d'un autre côté, il y a une phrase clé de la loi actuelle qui saute, qui est qu'en aucun cas la divulgation du secret des sources ne peut consister à demander aux journalistes de révéler ses sources. Si cette phrase-là, elle saute, c'est pire que tout.
Syndicats et médias demandent maintenant à être reçus pour en discuter avec les différents ministères concernés afin de réformer au mieux cette loi.
Vous évoquiez tout à l'heure, Marie, jusqu'à quel point il aura troublé nos réalités avec son style expressionniste. Le réalisateur américain David Lynch, décédé hier, laisse derrière lui une œuvre cinématographique labyrinthique, teintée d'étranges, mais pas seulement, car les visions de ce sorcier de l'image auront également nourri des disques. Et sur cette place prépondérante de la musique dans son œuvre, je vous propose d'écouter Thierry Jousse, critique de cinéma, producteur de Ciné Tempo sur France Musique. Il répondait ce matin à Jean-Baptiste Urbain.
Toutes les musiques qu'il a choisies, c'est lui qui a décidé. Ça fait partie de sa mise en scène, la musique. C'est plaque pas la musique sur les images, quoi. Pour moi, il était musicien avant même d'avoir composé. Enfin, il a composé quelques morceaux pour ses derniers films, notamment à partir de Le Drive et surtout Inland Empire. Puis il a publié quelques albums, bon, qui sont pas forcément la chose la plus importante. Mais c'est plutôt dans sa conception générale, en mélangeant d'ailleurs musique originale, musique classique, pop.
On retrouve de la musique classique ailleurs.
Oui, il y a effectivement les quatre derniers leaders, enfin un de Imabenrod, je crois, dans donc un des quatre derniers leaders dans C'est l'heure et Lula, par exemple, dans une scène assez hallucinée d'ailleurs. Donc oui, il avait par ailleurs, je pense, une grande culture musicale.
Et puis, comme beaucoup de cinéastes, il a un peu son compositeur, Angelo Badalamenti. Comment ils ont travaillé tous les deux?
Alors, ils ont travaillé très étroitement. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Blue Velvet, puisque Lynch avait fait appel à lui comme répétiteur pour Isabella Rossellini, qui devait chanter notamment cette chanson Blue Velvet. Ils se sont tellement bien entendus qu'il lui a demandé de composer la bande originale du film. Et ils se sont plus quittés pratiquement jusqu'à la dernière saison de Twin Peaks en 2017, où il y a à nouveau de la musique originale de Badalamenti. Je crois que on pourrait dire que Badalamenti travaillait quasiment sous dictée de David Lynch. Enfin, il y avait une sorte de, c'était comme un prolongement. Ils étaient comme un prolongement l'un de l'autre. Badalamenti l'a un peu raconté comme ça. Il y a une osmose. En fait, c'est comme une créature bicéphale presque, Lynch et Badalamenti.
Voilà, et c'est donc sur ces quelques notes du film Mulholland Drive que l'on termine ce journal avec un mot du temps pour cet après-midi. Brume tenace au nord, soleil au sud. Quant aux températures, elles sont comprises entre 2 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Axel Dubois à 18h. Vous avez rendez-vous avec Nicolas Balu pour le prochain journal de la rédaction.